Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Radio Foot International en ce début de semaine pour parler de football. Et une planète football toujours endeuillée. La disparition prématurée d'une légende africaine, le lion Pape Bouba Diop, est mort hier en France. Mais il était entré depuis longtemps dans le cœur des Sénégalais et des Africains. Lui, le buteur de la victoire du Sénégal face à la France, alors championne du monde en titre en 2002. Nous nous souviendrons de cet athlétique milieu de terrain avec Omar Daf, l'un de ses camarades en 2002. Il sera en ligne avec nous dans quelques instants. Et bien sûr avec vous, bonjour Habib Bey.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
On aligne donc les moments de tristesse en ce moment dans Radio Foot, mais on parlera aussi de victoire. La victoire des Diables Rouges en finale de la Ligue des Champions, Ligue des Champions africaine. Le club déjà le plus titré du continent a donc remporté sa 9e coupe, c'est un record, alors que Mortada Mansour vient d'être suspendu de la présidence du Zamalek pour notamment s'en être pris à l'arbitrage. En Ligue 1, la domination sans partage du PSG, 7 titres de champion en 9 ans, est-elle menacée cette saison? Lille, Lyon et Monaco, notamment, se rapprochent du champion sortant. Au moins, y aura-t-il du suspense en Ligue 1? Et puis du suspense attendu aussi au Théâtre des Rêves. Mercredi soir, face au PSG, il y aura un certain Edinson Cavani en Ligue des Champions. Un buteur très en forme avec les Red Devils. Bonjour Bruno Constant.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Et puis il y a Hervé Penaud qui est avec nous aussi aujourd'hui. Bonjour Hervé.
Bonjour à vous tous. Et puis malheureusement, ce jour un petit peu triste quand même.
Oh là là, on les aligne dans Radio Foot. Marie-Amélie Motte m'a aidé à préparer l'émission. Laurence Alarnaud est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
The man mountain himself is playing as a striker.
Oh, what a goal! What a fantastic goal! By Papa
L'ouverture du score du RC Lens par Bouba Diop.
Papa Bouba Diop has got a habit of scoring important goals late in games.
2002 est un grand jour pour le Sénégal. Pour la première fois de son histoire, il dispute un match de Coupe du Monde face à l'équipe de France, championne du monde. Ils vont ouvrir le score à la demi-heure de jeu grâce à Pape Bouba Diop.
Premier but du mondial, marqué par un Africain. Et oui, c'est Pape Bouba Diop qui marque à la 30e minute de jeu.
Pape Bouba Diop, héros du Sénégal.
C'est le 19 qui a marqué le but. C'est le but décisif, le but. Voilà. Le but, hey. 19, regarde.
Hey, c'est mon ami, hein. C'est mon ami, ça.
Il faut pas oublier, 19, 31 mai 2002.
Un but et un buteur entré dans la légende ce 31 mai à Séoul pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde. Le héros, c'est lui, Pape Bouba Diop. Il inscrit le premier but de la compétition, il inscrit le premier but du Sénégal dans une Coupe du Monde et il donne la victoire contre les champions en titre des Bleus qui n'iront pas loin d'ailleurs dans la compétition alors que les Lions de la Teranga se hisseront en finale. Lui inscrira en plus un doublé, oui. On m'attend toujours. Et lui inscrira un doublé face à la fameuse muraille uruguayenne. C'est le plus connu des faits d'armes donc de ce grand milieu de terrain passé, vous l'avez entendu, par le RC Lens, par Fulham, par West Ham. Il est donc parti rejoindre Diego Maradona sur un terrain quelque part dans les nuages, vaincu dans son dernier match par la maladie de Charcot. Il avait seulement 42 ans. Habib Bey, c'était un de vos frères de cette équipe de 2002.
Oui, on avait vécu une aventure humaine tous ensemble exceptionnelle à travers la Coupe d'Afrique en 2002, à travers la Coupe du Monde également. Il avait brillé, on l'appelait le géant, mais il avait une voix qui détonnait par rapport à son gabarit, une voix douce, un sourire d'ange. Et dans la dans le dernier sonore que vous avez passé, on entend Henri Camara qui était son complice en sélection.
En chambré.
Ouais, il les appelait Laurel et Hardy. C'était toujours Henri qui était celui qui taquinait le grand costaud Booba. Non, c'était surtout quelqu'un qui avait énormément de sagesse, de gentillesse. C'est ce qu'on retiendra. Et puis un formidable footballeur. Ce qui nous a liés aussi, c'est le fait qu'il marque ce but, tout un symbole face à l'équipe de France. Premier but pour le Sénégal en Coupe du Monde. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, il est rentré dans la légende des Africains, des Sénégalais, mais aussi, même en France, quand on a continué notre parcours, les Français étaient après pour le Sénégal, une fois que la France a été éliminée. Et c'est vrai qu'il est allé mettre son talent au service du football français, mais également en Angleterre. Et c'était surtout quelqu'un d'extraordinaire humainement. Donc aujourd'hui, je suis un petit peu le porte-parole de cette génération, mais on est tous très touchés par le décès de Pape Booba, et puis on espère que là où il est, il trouvera la paix, et surtout il va aller célébrer son but encore une fois avec Bruno Metsu, Jules Bokandé, Mansour Wade et tous ceux qui nous ont quittés de cette génération. Je pense aussi à certains du staff, mais ce qui est sûr, c'est que nous, on est encore là, et on est aussi là pour cet hommage et entretenir cet héritage et la légende que Pape Booba a laissé.
Alors, qui était dans cette aventure humaine, comme vous dites, mais aussi une inoubliable épopée, parce qu'on l'avait suivi et c'était le starter, finalement, ce but de cette épopée, eh bien, c'est Omar Daff, lui qui faisait aussi partie de cette équipe et qui est en ligne avec nous, ancien défenseur qui est aujourd'hui avec l'équipe dans l'équipe nationale et qui est aujourd'hui entraîneur du FC Sochaux. Bonjour Omar Daff.
Bonjour à tous.
Merci beaucoup d'être en ligne avec nous. Vos années avec l'équipe nationale du Sénégal coïncident avec celles de Booba Diop. Hein. C'était aussi un de vos camarades de jeu. Vous étiez son aîné d'un an.
Tout à fait. C'est vrai qu'Habib a rendu un hommage poignant à Booba. Moi, je l'ai connu très jeune. Je jouais encore au Garaf de Dakar. Donc, je l'ai vu arriver en sélection. Il est arrivé, je crois, un an après moi. Mais ce que disait Habib tout à l'heure, je garde de lui déjà l'homme et puis le joueur qu'il était. Je peux vous dire que quand j'ai appris sa disparition hier, j'étais envahi par une immense tristesse que j'ai perdu un ami et un frère.
Vous lui aviez parlé récemment parce qu'il souffrait de cette maladie. Certains rapportent qu'il était sur un fauteuil roulant. Cette maladie, c'était, était devenue plus violente contre lui.
Oui, Booba avait beaucoup de pudeur. Malgré sa maladie, il est resté digne, était très discret. Il était aussi joueur. Et effectivement, je l'ai eu à plusieurs reprises au téléphone, notamment quand on allait jouer la saison dernière à Lens ou cette année encore à Valenciennes. Donc je savais qu'il était gravement malade, mais choqué par sa disparition. Et aujourd'hui, on est très triste. On a perdu, pas qu'un footballeur, mais le Sénégal a perdu un de ses hommes, un grand homme.
Est-ce que ça vous console un peu de vous dire qu'il était entré déjà dans le cœur de toute une nation au moins, et j'imagine de tout un continent au jour de ce match et grâce à ce but ?
Je pense que je rejoins Adi par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure. On est inconsolable parce que Booba était très jeune, il avait encore beaucoup de choses à vivre et à apporter au football et à ce monde. Malheureusement, il faut accepter... Le bon Dieu l'a repris auprès de lui. On ne peut qu'accepter cette décision. En tout cas, on lui souhaite qu'il repose en paix. Mais je peux vous dire qu'on est tous très tristes et peinés par cette disparition.
Habib.
Oui, mais je pense que Omar a tout résumé. Ce qui fait la force aussi de cette génération, c'est que on se le dit pas assez, mais on a vécu une aventure humaine qui est extraordinaire. Oui. Et parfois, on oublie de s'appeler, on oublie de prendre des nouvelles des uns des autres. Par contre, quand on se voit, c'est comme si on s'était vu hier. Ça a été le cas avec Omar quand on s'est vu il y a pas très longtemps. On essaie de s'appeler, c'est difficile parce qu'il est occupé, je suis occupé. Et c'est vrai que moi, par exemple, Pape Booba, je l'avais revu lors du match qu'on avait pu faire pour Afribac, qui était une œuvre caritative au Sénégal. Il avait joué, on avait joué ensemble. C'est comme quoi la vie va très très vite. Il faut qu'on profite parce que c'est ce que je dis, on a la chance d'être là, la chance de vivre avec nos enfants, nos familles, de profiter de notre vie et de notre vie professionnelle. Et c'est vrai que Booba était un grand professionnel. Ce qui nous lie aussi, c'est que Omar le disait, il est arrivé un an avant Booba. Moi, je suis arrivé en même temps que Booba. C'était ma deuxième sélection quand lui, c'était sa première sélection contre le Maroc. Donc, on a presque construit cette aventure ensemble. Il y avait des gens comme Eladj et Kali qui étaient là un petit peu avant. mais on est tous arrivés presque au même moment. Alors avec Bruno qui a construit cette équipe, cette osmose entre nous. Et c'est vrai que Bouba était l'un des plus discrets de cette sélection. C'était le calme, il y avait des agités. Lui, c'était le calme, mais c'était le géant calme qui, parfois, lorsqu'il était déchaîné sur le terrain, pouvait être très imposant et même pouvait faire peur. C'est ce qu'il a fait en Coupe du Monde. Mais ce qu'on doit retenir de Bouba, c'était sa capacité à amener les autres avec lui, être ce liant dans l'équipe, être un petit peu le baromètre et le curseur entre les très très fous de cette équipe et puis les très très calmes. Omar en était un. Et c'est vrai qu'on gardera ce souvenir là de Bouba, mais je pense qu'on prend pas assez soin des uns des autres, mais c'est aussi la vie qui veut ça. Hein. On se dit souvent, on devrait plus s'appeler, plus prendre des nouvelles, parce qu'on se rend compte que la vie va très très vite.
Oui. Omar, vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, Habib a tout à fait raison, mais je, par rapport à ce qu'il dit, cette aventure extraordinaire, on n'oubliera jamais, Habib. On a parcouru le continent africain de long en large pour représenter notre pays. Je pense qu'on l'a fait avec toute notre force, avec toute notre énergie. Je pense que cette génération-là, on sera lié à jamais. Et même, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est pris par nos occupations diverses, mais par la pensée, on s'apprécie énormément, on se respecte, et il n'y a rien qui pourra nous enlever ça. Et aujourd'hui, on est... Il n'y a pas de mots. C'est que quand les gens disparaissent, c'est là qu'on a tendance à leur rendre hommage. Mais je peux vous dire qu'on a une génération, il y avait des personnalités diverses, mais il y avait énormément de respect entre nous et des styles.
Vous vous souvenez, Habib, on avait touché un petit peu ce lien avec vous tous à Dakar quand on avait fait cette émission avec ceux de 2002, avant la Coupe du Monde de 2018.
Oui, exactement.
Hein, avec Alassane Dour, avec Fadiga.
Exactement, il y a vraiment un amour fraternel entre nous tous, parce que l'aventure humaine qu'on a liée, elle est indéfectible. Omar le dit, et je le répète, je sais que là, en ce moment, Bouba est en train de célébrer avec Jules, avec Bruno, avec Mansour Wade, avec tous les gens de cette génération. On est encore beaucoup à être là, et il faut continuer cet héritage et cet hommage à Pape Bouba. Et c'est vrai qu'on s'aime réellement, c'est-à-dire que il y a énormément d'affection les uns pour les autres, parce qu'on a été là les uns pour les autres dans cette quête de reconnaissance, faut pas l'oublier. On a démarré en étant presque inconnu sur
vous
la carte du monde du football, on était en train d'écrire
du Sénégal,
une histoire.
Au moins.
Et on parle souvent d'émotions en football. Là, pour le coup, des émotions, on en a véhiculé, pas qu'au Sénégal, partout. Même Hervé Penaud faisait partie de voilà, du chemin qu'on a parcouru.
Ah, oui.
Il était là jusqu'à 2h, 3h du matin à interviewer des gars qui dormaient pas alors que tous les autres équipes dormaient.
Et qui devait rendre son papier.
Et c'est ce qu'il faut garder de tout ça. Et je sais que voilà, Pape Bouba faisait partie de ces gens qui étaient des gens toujours avec le sourire, toujours disponibles. C'était notre colosse généreux. Aujourd'hui, il s'en est allé, mais
1m97, voilà. Hein, c'est pour ça qu'il était surnommé l'armoire du côté
exactement.
De Fulham.
Exactement.
Hervé,
oui, mais c'est exactement ça. Franchement, c'est cette aventure humaine. Alors, bien sûr, moi, je suis pas sénégalais, j'étais pas dans l'équipe, mais on avait l'impression d'en faire partie un petit peu, et on avait vécu des moments incroyables. Au début de cette Coupe du Monde, pour tout vous dire, je suivais le Cameroun. Je peux vous assurer que quand j'ai regardé le match France-Sénégal à la Coupe du Monde, personne ne comprenait. Il disait, mais pourquoi ce type-là, il parle Sénégal? Donc moi, j'ai sauté de joie à la fin du match. Hein, je le dis honnêtement, hein, parce que il y avait une affection avec les joueurs qu'on avait connus, et après on s'est retrouvé, on a suivi l'aventure, on était dans le même hôtel, effectivement, jusqu'à des fois pas d'heure, hein, même jusqu'à des moments incroyables. Et Bouba Diop, c'était pour quelqu'un qui était de l'extérieur, donc pas dans l'équipe évidemment, ça, il avait ce côté un peu calme, toujours serein, mais ça n'empêchait pas les autres justement de beaucoup le taquiner, aimait bien le taquiner, et lui répondait pas tellement, souriait plus qu'autre chose, mais il était un petit peu le gars que vous aimez bien, parce que comme il est costaud, solide, vous dire, bah tiens, on va un petit peu l'embêter. Et je sais que Bruno Metsu l'adorait. Et la première fois, alors, quand Bruno a pris l'équipe du Sénégal, il m'en avait parlé très vite. Il m'a dit, tu sais, j'ai vu un joueur en Suisse super fort. Alors, je sais même pas ce qu'il fait là-bas. Il faut vite le ramener en France. Il est immense. Techniquement, il est très fort. Il est capable de tout faire. Et c'était Bouba Diop, effectivement, avec Henri Camara. Quand vous voyez l'un, vous voyez l'autre, l'un, Laurel Hardy. C'était comme ça qu'ils avaient surnommé.
Un beau duo.
Mais c'était une équipe incroyable. Hein. Faut vraiment le dire, parce que ça, on a vécu des émotions, parce que là, bon, moi j'ai eu Kali, j'ai eu Eladj après le décès, et c'est vrai qu'il y a des personnalités tellement différentes. On parle d'Omar qui est le sage un petit peu, hein, l'homme qui prêche la bonne parole, qui est très écouté, Habib dans un autre registre, Eladj, on va dire un petit peu fou, hein, on va dire ça comme ça, Kali encore un autre style. Il y avait des personnalités tellement incroyables, mais qui se sont mariées de manière formidable. Ça n'a pas empêché les coups de gueule, les moments un peu chauds et compliqués, mais c'est ça qui fait la vie aussi d'une équipe. C'est ça qui fait la vie d'homme. Et c'est aussi pour ça qu'ils auront cette mémoire commune à vie et que ça reste une équipe hors norme et qu'on a tous adoré.
Écoutons aussi cet hommage rendu par le président de la Fédération sénégalaise hier, Augustin Senghor, au micro de Babacar Fall, parce qu'effectivement, il revient sur le côté marquant de papa Bouba Diop, mais aussi de toute cette génération.
Un homme qui a tout donné pour son pays, qui est parti. Et Pape Bouba et sa génération ont marqué l'histoire du football de ce pays, mais ont simplement marqué l'histoire du Sénégal. Ils ont laissé cet héritage qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes ne rêvent et ne vivent que pour le football.
Eh oui, une génération qui ne vit que pour le football. Vous avez des héritiers au Sénégal, c'est ce que vous ressentez, Omar Daf?
Je rejoins ce que disait Adi tout à l'heure. C'est qu'effectivement, on a vécu des moments extraordinaires, souvent dans des conditions très difficiles. Et je pense que cette difficulté-là nous a aussi unis. Et quand on se retrouvait, on faisait abstraction de toutes les contraintes qu'il pouvait y avoir autour de nous. Et moi, les plus beaux moments de ma carrière, je les ai vécus avec cette équipe. Et franchement, aujourd'hui, j'ai aussi une pensée pour Henri Camara, qui a commencé sa carrière avec Bouba au Sénégal. Je pense que Henri doit être très très triste aujourd'hui. En tout cas, c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte de la chance qu'on a et que humainement, on ne profite pas assez les uns des autres et on ne s'écoute pas assez. C'est souvent après une disparition qu'on se rend compte qu'on perd des gens exceptionnels. Et Bouba en faisait partie, c'est pas parce qu'il n'est plus là aujourd'hui, mais Habib, on était en concurrence en sélection. Et malgré tout, on a toujours gardé des relations saines, fraternité, et on a toujours plaisir à se voir. Et pour moi, il y a le travail, mais le côté humain, pour moi, doit prendre le dessus par rapport à tout le reste.
Un petit mot, Bruno Constant ?
Non, moi c'était juste parce que je l'ai côtoyé en Angleterre. Il a passé 8 saisons en Angleterre et il a laissé une belle trace. Souvent, on juge les joueurs à la trace qu'ils laissent en Angleterre à travers les anciens, les hommages. Et son hommage a été rendu par exemple à Match of the Day, l'émission emblématique de la BBC ou encore sur Sky. Et puis surtout, il a participé à l'épopée de Portsmouth en FA Cup. Ils avaient remporté la Cup en 2008. Et voilà, il en faisait partie. Et voilà, il a une belle carrière aussi en Angleterre.
Oui. Il y a une expression, je crois, en Angleterre, c'est Harry Redknapp, je crois, qui l'a utilisé, qui a dit, il n'y a pas un os qui était mauvais en lui. Ouais. Pour dire que tout était bon, quoi. Et j'ai eu Gervais Martel juste pour un mot, parce qu'on parle des Sénégalais, mais les gens qui l'ont côtoyé, et Gervais Martel, d'ailleurs, qui sera au Sénégal cette semaine, donc,
ça me paraît incroyable.
Et Gervais Martel, président du RC Lens, m'a dit, franchement, on dit toujours quand les gens décèdent, c'était vraiment un mec bien, mais je te jure, c'était un mec bien.
Bon ben je crois qu'on peut s'arrêter là-dessus. Omar Daf, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous dans Radio Foot International.
Merci à vous. Et par rapport au témoignage, ce que je retiens, c'est qu'on n'a pas parlé du palmarès de Bouba, mais on a plus insisté sur l'humain. Comme quoi, c'est, pour moi, c'est ça le plus important.
C'est ce qui reste. Tu as raison, Omar.
Mm-hmm. Voilà. Habib, je t'embrasse.
Ouais, moi aussi, je t'embrasse, Omar. À bientôt. Ouais, prends soin de toi, prends soin de la famille. Ouais, ça marche.
Merci.
À très bientôt, Omar Daf. Et merci et bonne chance avec votre équipe du côté de Sochaux. On va continuer et on va parler de football africain. On va parler de la Ligue des Champions.
Victoire pour Al Ahly, 2-1 face à Zamalek dans ce derby du Caire, cette finale de Ligue des Champions d'Afrique.
Oui, Ali, oui. Oui, Ali.
Alors, on ne sait pas ce que veut dire oui, mais en tout cas, on est d'accord avec le commentateur. Des Diables Rouges au sommet de l'Afrique. Leur piédestal s'élève au fil des trophées accumulés, donc dans leur armoire. La Harley a remporté vendredi soir sa 9e Coupe de Ligue des Champions. Un 9e trophée donc continental qui s'éloigne, en plus, qui l'aide à s'éloigner de ses poursuivants. Le TP Mazembe et le Zamalek, autre équipe du Caire, ont remporté 5 coupes pour l'instant chacun. Surtout, c'est le retour de Al Ahly du Caire, la fameuse équipe, l'oncle national, après 7 ans de jeûne sur la scène africaine. Finaliste malheureux en en 2017, en 2018, alors que la CAF l'a désigné le club du 20e siècle. C'est impressionnant, Hervé, cette régularité, on va dire, mais sans doute peut-être aussi ce retour dans l'ensemble du football égyptien qui avait un peu disparu suite à ce qui se passait plutôt politiquement dans le pays ces derniers temps.
C'est vrai que ces dernières années, c'était plus compliqué, parce que là, il faut parler quand même
ils
d'un
ont
club.
Gagné en 2013, donc c'était
2013, après ils ont deux finales perdues. C'est un club hors norme, hein. C'est un club qui draine des supporters, mais absolument incroyable. D'ailleurs, cette finale a eu lieu au Caire, mais quasi à huis clos, hein, puisqu'il y avait très très peu de gens autorisés à aller au stade.
Ce qui était déjà
peut-être une bonne chose, parce qu'on avait très très peur. Hein. Durant la semaine, il y avait beaucoup de craintes sur des incidents
plutôt
possibles.
Plutôt d'invectives sur les réseaux sociaux entre
déjà,
les supporters
des
deux clubs.
Il y avait des émissions de télé
qui ont
été arrêtées.
Le derby du Caire.
C'est le derby absolument incroyable. Les derniers matchs avaient même eu lieu du côté d'Alexandrie, hein, puisque comme il n'y avait pas de supporters entre les deux clubs, vous aviez là entre Zamalek, alors pour les gens qui sont allés au Caire connaissent Zamalek, la petite île, c'est un petit peu bourgeois, c'est l'aristocratie égyptienne, et puis le Al Ahly, c'est vraiment le club du peuple.
C'est le club du peuple. Oui, avec donc, tous ces terrains pour pratiquer un genre de club hein, de sportif des week-ends.
Donc il y a une folie incroyable autour de ce club-là. On dit d'ailleurs que la plupart des grands présidents étaient Al Ahly, hein, de Nasser et tous les autres. Donc c'est vraiment quelque chose de très très fort. Et puis les revoir au sommet comme ça, revenir au sommet, mais ils ont toujours été quand même dans les hautes sphères du football africain. En fait, de toute façon, le club le plus important d'Afrique, pas seulement d'Égypte, mais d'Afrique aujourd'hui, élu club du 20e siècle, évidemment. Et puis battre le Zamalek, l'ennemi intime, sur une finale en Égypte, c'est la première fois. Hein, oui. Il y a deux clubs comme ça d'une même ville et puis d'un même pays se rencontraient, en plus sur une finale directe, alors qu'avant, hein, c'était dans.
On sait que c'était en aller-retour.
Donc c'est un moment absolument incroyable. Et puis avec à la tête un entraîneur qui est un peu un entraîneur hors norme. Quoi.
On va y venir à cet entraîneur. Habib, un petit mot sur le Al Ahly.
Le palmarès est exceptionnel et c'est vrai que ce club et Zamalek ont été un vivier pour la sélection qui a tout gagné 2006-2008 et après je sais plus mais ce
8,
qui est
9,
sûr
10, non
ouais bah ils ont gagné 8, 3 9, de 10, suite, hein.
3 de suite 3 de suite,
ouais, 3 de suite. Donc c'est vrai que à ce moment-là c'était
ça commence en 2006 en Égypte justement
ouais, voilà,
en
exactement,
Égypte,
ouais, en 2006, parce qu'on a été éliminé en demi-finale exactement
s'en souvient bien
exactement et ce qui est sûr c'est que ils ont connu un moment de creux parce qu'il y a eu des problèmes aussi en Égypte sur le championnat local et puis bah ça revient fort parce que les institutions reviennent toujours très fort de toute façon et aujourd'hui ils sont les leaders incontestés de cette Ligue des champions africaine avec 9 titres, c'est énorme, c'est juste exceptionnel.
Ils ont fait un championnat phénoménal aussi. Hein.
Alors parlons de ce sélectionneur. C'est un Sud-Africain, Pitso Mosimane. Il vient en fait pour remporter ce deuxième titre continental. Pour lui, c'est le deuxième titre parce qu'il en avait gagné un avec les Mamelodi Sundowns en 2016, d'où il arrive. Et justement, écoutons le Pitso Mosimane.
Not everybody can win the Champions League.
Ce n'est pas donné à tout le monde de remporter la Ligue des Champions, vous savez, ça a été un match très dur, mais bon, on s'y attendait, hein. C'est un derby, c'est un sentiment incroyable, on est sur notre petit nuage. Je veux vraiment remercier mes joueurs et leur capitaine, ils m'ont tout de suite fait confiance quand je leur ai dit qu'on irait chercher cette Ligue des Champions. Ils ont totalement adhéré à mon discours, se sont bien adaptés.
Oui, qui l'eût cru qu'ils arriveraient sur ce petit nuage, parce que Pitso Mosimane, il était arrivé le 2 octobre dernier, en fait, véritable opération commando, opération victorieuse Hervé.
Oui, il avait remplacé le Suisse René Weller, mais alors attention, on parle quand même d'une équipe qui avait déjà des résultats, parce qu'en championnat, ils ont fait un championnat étourdissant, hein. Donc, mais on sait que ça change beaucoup, vous savez, en Égypte, parfois, il y a des clubs qui changent 5 fois d'entraîneur dans l'année, donc ça peut arriver. Mais c'est vrai que tout de suite, il a mis la main sur ce groupe-là, il a fait un truc important, d'ailleurs, c'est que le deuxième entraîneur à réussir à le faire avec deux clubs différents comme ça en Afrique. Mais c'est un personnage un peu hors norme. Il a une aura incroyable qui s'est faite au Mamelodi Sundowns, d'ailleurs, parce qu'il avait travaillé à Supersport avant. Ça n'avait pas marché plus que ça. C'est un ancien joueur, déjà, faut le savoir. Il a même entraîné l'équipe nationale sans un grand succès non plus. Et puis, au Mamelodi Sundowns, il a eu côté un peu Ferguson hein, à une certaine époque. Vous savez, Ferguson, ça s'est joué à très peu de choses. Le fait qu'il reste à Manchester United hein, sur un match à l'époque contre contre un club écossais d'ailleurs. Et finalement, il est resté. Bah là, c'est un peu pareil. C'est Patrice Motsepe, celui qui se présente pour la candidature
à la
présidence de la CAF. Et ben, il lui a fait confiance. Et la première année où il a pris le club, ils finissent 10 ou 12 ou 14e, c'est-à-dire 10e. Il fait pas une grande saison. Mais lui, il croit en lui. Il dit, je sens qu'il a quelque chose. Simplement, faut lui laisser le temps de travailler. Et puis après, c'est parti pour la fameuse aventure des Mamelodi Sundowns. C'est pour ça que je fais l'amalgame un peu avec Ferguson.
Habib, surtout quand on arrive comme ça, hein, 2 octobre, qu'on a une finale le 27 novembre.
Hein, oui, vous avez peu de temps pour travailler. La seule chose sur laquelle il a dû appuyer, c'est de dire je l'ai déjà gagné et je vais vous y emmener. Je sais comment vous y emmener parce que mine de rien, c'est ce qu'il dit. Et là, on parle de management plus que de méthode d'entraînement. Je pense qu'il a une méthode d'entraînement, clair, mais sur des compétitions où il avait peut-être un mois et demi, 2 mois, je pense qu'il a activé vraiment l'aspect management et la reconnaissance de ses joueurs et la capacité que ses joueurs avaient à identifier son discours et à le suivre.
Ouais.
Je pense que ça a fonctionné forcément puisqu'il est deuxième fois champion et ça c'est pas donné à tout le monde.
Ouais. Ils ont eu un drôle de calendrier parce qu'il a fallu multiplier les matchs parce que ils avaient beaucoup de retard sur les matchs. Enfin bon, dans des conditions pas simples. Évidemment. On connaît avec le coronavirus. D'ailleurs, des joueurs étaient impactés dans les deux équipes. Hein, ils n'ont pas le même nombre de joueurs forfaits.
En tout cas, ces Diables Rouges retrouveront peut-être des ogres rouges, ceux du Bayern de Munich. Mmh. En finale de la Coupe du Monde des clubs, eux sont directement qualifiés en demi-finale. La 17e compétition du nom est prévue. Ça sera au Qatar pour tester les stades du 1er au 11 février. Ce qui va pour moins bien, c'est pour les perdants, hein, les Chevaliers Blancs, parce que ce derby en finale, il y a eu 9 rencontres déjà en finale et ils n'en ont gagné. C'est Al Ahly qui en a gagné 6. Donc
et 3
c'est
nuls,
difficile.
Je crois qu'ils les ont jamais battus en Ligue des Champions.
Ah oui. Le président en plus du Zamalek qui s'appelle Mortada Mansour, on se souvient, on avait parlé de lui quand le Raja, je crois, leur avait demandé de décaler le match et tout, il a été suspendu pour 4 ans par le ministre des Sports d'Égypte et déjà remplacé par Ahmed Bakri. Alors à Mortada Mansour, plusieurs reproches. D'abord, il a refusé de féliciter les adversaires en disant que la victoire leur avait été volée. Il y a 13 plaintes contre ces diatribes, mais surtout il est poursuivi pour malversation dans le club. Et d'ailleurs, tout le directoire a sauté, y compris son fils. Et il avait perdu son siège de député il y a quelques temps, une vingtaine de jours, donc il n'a plus d'immunité non plus. Bref.
La vie va être compliquée pour lui maintenant. D'ailleurs, celui qui le remplace, si je ne m'abuse, est juge ou procureur.
Exactement. Juge, mais aussi ancien du directoire du Zamalek. Bon, mais notons que dans ce pays, la direction, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il n'y a toujours pas de président de la fédération. Depuis la CAN et l'élimination des pharaons, il y a un pilotage fait par un comité de transition. Messieurs, et si on parlait Ligue 1, ça vous dit parce qu'on n'en parle pas si souvent en ce moment. On est toujours coincé entre championnat, événements qui surgissent et Ligue des Champions. On va parler de la Ligue 1.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Alors, un championnat où le Paris Saint-Germain est toujours devant, mais on va se demander pour combien de temps. Avec un match nul au Parc face à Bordeaux, samedi soir, après une 3e défaite aussi de cette saison, c'était la journée d'avant et c'était à Monaco, le PSG finalement n'emmène pas large après cette 12e journée de Ligue 1. Lille est juste derrière à 2 points, ils auraient pu rejoindre les Parisiens sans ce nul à Saint-Étienne hier soir. Lyon des boules en enchaînant les victoires. Il y a aussi Monaco, le Monaco de Niko Kovac, donc l'ancien entraîneur du Bayern. Il y a toujours Montpellier qui est là, même nombre de points. Et puis juste en dessous, on a Marseille 5e, mais 2 matchs en retard. Si on leur attribuait les 6 points d'ailleurs à Marseille, 2 victoires, ils seraient même devant le Paris Saint-Germain. Donc Habib, est-ce qu'il y a un vrai ou un faux suspense dans cette Ligue 1 pour vous?
Je ne sais pas si on peut dire vrai ou faux. Et le suspense existe pour l'instant, mais je pense qu'il n'existera pas à la 38e journée.
Non. Bah.
Mais c'est bien qu'il existe maintenant. C'est bien que le suspense existe maintenant. Ça veut dire déjà que les équipes dont on reprochait de dire il y a trop de différence, mais qui ne jouaient que 2 fois contre le PSG et qui finissaient à 25 points, donc ça veut dire qu'ils perdaient 6 points contre le PSG, mais ils en perdaient peut-être une vingtaine contre toutes les autres équipes de Ligue 1. Là, au moins, bon, on se dit...
Il y a match.
Pour l'instant, il y a match. Mais je pense que le PSG est bien en dessous de son niveau. et que quand ils vont retrouver leur niveau, ça, le gap va se remettre en place.
Bruno Constant.
Le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement les raisons de ce mal au PSG, parce que quand on regarde les autres championnats en Europe, on voit que les championnats sont sans dessous-dessus. C'est que les leaders ou habituels leaders ou champions en titre sont en grande difficulté. On a le Real et le Barça en Espagne qui sont à l'agonie. En Angleterre, Liverpool qui est bousculé. Même en Bundesliga, le Bayern est en tête, mais un peu menacé, pas aussi bon qu'il avait paru en Ligue des Champions. En Italie, j'en parle même pas, la Juve est
étonnamment
point du Milan, cinquième. Le problème du PSG, c'est que le PSG n'avait pas fini son championnat en mai, en juin et juillet. Donc ils n'ont pas cette excuse d'un calendrier qui a été condensé, de pas avoir de préparation estivale, etc., etc. Donc c'est là où ils manquent.
Ils ont quand même fait un tournoi à Lisbonne.
Je suis désolé. D'accord, comme tout le monde. Mais sauf qu'ils n'ont pas joué. Ils n'ont pas joué en juin. Ils n'ont pas joué en juillet. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils ont eu ils ont eu une préparation estivale que n'ont pas eu tous les autres championnats européens, tous les grands des autres championnats européens. Donc ils n'ont pas cette excuse-là. Et là, le PSG en l'occurrence, Tourel n'a plus d'excuses. Aujourd'hui, il est jugé uniquement sur son travail. Et quand on parle des blessures, parce qu'on parle aussi des blessures...
Vous pensez que le suspense va durer jusqu'à la 38e, vous ?
Mais je ne sais pas, pourquoi pas.
On a
vu par le passé que le PSG, notamment la saison de Carlo Ancelotti, où on avait dit oui, ils vont revenir, puis finalement ils ne sont jamais revenus, ils n'avaient pas été champions.
Donc, face à Montpellier.
Ça peut arriver.
De toute façon, ce qui est sûr, c'est que ça ne dépend pas que d'eux, au bout d'un moment. Parce que s'ils sont, par exemple, derrière Marseille, alors ils ont déjà joué une fois Marseille, donc ils peuvent toujours leur reprendre. Mais si jamais Marseille gagnait ses deux matchs en retard avec deux points d'avance, le maximum dans leur confrontation directe, il n'y a plus que trois points. Donc évidemment, s'ils gagnent, ils sont devant, mais s'ils ne gagnent pas. Évidemment, après, ça dépend de Marseille. Je me souviens quand Laurent Blanc avait pas mal de retard une année sur, je ne sais plus qui c'était, Monaco à l'époque. Il disait, mais de toute façon, s'ils ne se plantent pas, on ne reviendra pas.
C'est ce qui s'est passé avec Jardim.
Exactement.
Lorsque Jardim est champion avec Monaco, c'est que Monaco est devant et que Monaco, à un moment donné, ne l'a jamais. Et à partir du moment où il ne l'a jamais, dans la confrontation directe qu'ils avaient joué au Parc des Princes, où ils font match nul d'ailleurs, avec un but de Bernardo Silva, si je me souviens bien, ils n'avaient pas permis au PSG de revenir. Donc si l'option. Et celle-ci, au bout de 20 journées, et que du coup, les équipes qui sont devant Paris, type Marseille, Monaco, Lyon, parce qu'on ne peut pas exclure Lyon qui revient, même Montpellier, toutes ces équipes, même si je pense qu'en termes d'effectifs, ils seront à un moment donné limités, on peut assister à ce genre de scénario. Leicester, pareil. Leicester, tout le monde pensait que Leicester allait tomber en Angleterre. Ils ne sont jamais tombés. Ils ont.
Alors justement, on évoque des poursuivants qui seraient de possibles menaces, on va dire, pour le Paris Saint-Germain. Eh bien, intéressons-nous à Lyon. Alors, Lille a joué hier soir, donc, avec ce match nul à Saint-Etienne. Écoutons Maxwell Cornet. Là, c'est la victoire, large victoire de Lyon face au pauvre Stade de Reims, qui a bien du mal cette saison. Écoutons Maxwell Cornet vanter le renouveau d'un groupe qui a un peu tâtonné en début de saison, eux aussi ils étaient à Lisbonne.
On a grandi, on est une équipe qui a grandi, on apprend de nos erreurs. En faisant trois matchs, trois victoires d'affilée, on fait des bons au classement. Je pense que ça se voit sur les matchs qu'on a pu faire en ce moment. On voit des mecs concernés. Je pense que voilà, il y avait cette période de mercato, même si ce n'est pas une excuse, qui est venu chambouler un peu l'état d'esprit des mecs. Mais là, on a vu que c'est du passé, tout ça. On a des mecs concernés et on sait qu'on a des joueurs talentueux et qui peuvent faire la différence à tout moment, que ce soit ceux qui commencent ou ceux qui rentrent en cours de jeu. On l'a vu encore cet après-midi avec Moussa, qui n'arrête pas de travailler. Cet après-midi, il est récompensé, donc c'est génial pour lui et surtout pour l'équipe.
Hervé Penaud, l'objectif de Lyon, en plus, cette année est clair. C'est-à-dire que là, ils sont privés de Ligue des Champions et on se souvient, parce que le championnat n'a pas été terminé, ils étaient cinquièmes. Là, c'est il faut être deuxième, voire premier.
Deuxième ou troisième, déjà. Première chose, eux, c'est la Ligue des Champions. Oui. Non, mais d'abord, eux, c'est la Ligue des Champions.
Bah oui, mais troisième, on n'est pas toujours forcément qualifié.
On n'est pas toujours, mais enfin, bon, l'objectif prioritaire, c'est évidemment d'abord le podium. Enfin, d'abord,
mais si on est
d'abord
premier,
le podium,
c'est encore
plus
simple.
Mais quand vous êtes Lyon.
J'ai cru que t'étais d'abord le pognon.
Ah non, bah, c'est ça.
La Ligue des Champions,
oui,
c'est ça.
Oui, bah oui, bah, aujourd'hui, c'est ça. De toute façon, la plupart des clubs veulent déjà être en Ligue des Champions.
C'est le prestige.
Mais évidemment que cette année étant tellement particulière, alors je le trouve un peu dur quand même, Bruno, avec les
joueurs. C'est tout.
Je pense que l'enchaînement des matchs, les joueurs n'en peuvent plus. C'est-à-dire qu'à un moment, ils sont cramés.
Et Lyon ne dispute pas de Ligue des Champions, c'est
et
ça.
Voilà, la grande chance, c'est que Lyon ne dispute rien. Mmh. C'est-à-dire que Lyon dispute. Bah, ils ont le championnat de France. Si ça se trouve, la Coupe de France va être annulée. C'est une possibilité. Coupe de la Ligue n'existe pas. Donc le seul souci de Lyon aujourd'hui, c'est la gestion des égos et des humains dans un groupe trop riche. où il y a trop de joueurs pour jouer de la Ligue 1. Il faudrait des joueurs pour jouer de la Ligue 1 et de la C1. Ça permettrait un peu de faire tourner. Donc voilà, le gros problème. Pour l'instant, Garcia, Rudy Garcia gère très très bien les uns et les autres. Alors bien sûr, ça n'empêche pas certaines inimitiés, évidemment. Parce que quand vous ne jouez pas, vous pouvez toujours pas comprendre pourquoi vous ne le faites pas. Mais le problème, c'est qu'à jouer un match par semaine, alors là, la chance, c'est qu'il va y avoir 4 matchs en 2 semaines au début décembre, mais à jouer un match par semaine, c'est-à-dire que ceux qui ne jouent pas, eh ben, ils perdent le rythme. Parce que vous avez des joueurs, par exemple, Cherki, la semaine dernière, il a voulu le faire rentrer, le mettre titulaire. Il avait joué 5 minutes en 2 mois et demi. Puisque il n'y a même pas de National 2. Et puis, ils peuvent pas jouer ailleurs. Donc, ça veut dire que si vous faites pas 3 matchs de suite, vous avez quasiment un mois sans jouer au football.
Et il y a plus avec un match de la Ligue, il y aura peut-être
donc,
pas
il va falloir arriver à gérer ça. Donc, la chance de Lyon, en plus, c'est qu'il va y avoir 4 matchs, donc, en 2 semaines, quand ça va venir. Le match Paris-Saint-Germain-Lyon va être vraiment capital.
Et par exemple, à Lyon, peut-être que le mercato d'hiver va bousculer aussi les choses. Je serais pas étonné qu'il y ait des départs. Soit Memphis Depay qui est en fin de contrat.
Ah, ils espèrent. Ils espèrent que des joueurs partent. Ouais. Mais enfin, le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas pu repartir cet été. Ouais. Je ne sais pas comment ils partiront cet hiver. Moi, ça me paraît compliqué parce
surtout
que Aouar, il
n'y
avait pas assez d'argent pour lui. Mm-hmm. Alors, je ne vois pas pourquoi en janvier, d'un seul coup, on trouverait cet argent alors que les clubs n'ont plus d'argent.
Habib, pour vous, d'où viendrait le danger de ces poursuivants du Paris Saint-Germain, de Lille, de Lyon ou même de Monaco? Parce qu'on a
Monaco, j'aime beaucoup.
Voilà, ouais. Monaco,
j'aime
on a l'impression
que, je vois de,
la greffe Kovac qui est en train de prendre.
Ce qui m'a plu, c'est l'après-Lyon. C'est-à-dire que beaucoup de coachs auraient paniqué, beaucoup de coachs auraient changé sa façon de voir les choses et son projet de jeu avec son équipe. Lui, il a dit « Ok, c'est un accident, on sait pourquoi c'est un accident, il a parlé avec ses joueurs, et derrière, il est plus ou moins resté sur la même organisation, en tout cas dans la même philosophie, parce que l'organisation, c'est pas très intéressant, mais la même philosophie. » Et c'est vrai que cette équipe, on critiquait beaucoup Voland, il revient à un très très bon niveau, il a quand même des joueurs comme Ben Yedder et le petit Sofiane Diop qui est très intéressant. Je pense qu'il y a une équipe type qui se dégage aussi au sein de cet effectif, et puis ils ont pas de Coupe d'Europe, donc encore une fois, comme Lyon, il a une semaine à chaque fois pour préparer les matchs. Ça veut dire qu'il peut préparer les joueurs physiquement, ce qui n'est pas le cas des équipes qui jouent la Ligue des Champions.
C'est là où Marseille est fort. Ils sont restés dans le classement malgré toutes les critiques qu'ils peuvent entendre et que j'entends aussi, hein, parce que le jeu
pratiqué. C'est pas des critiques, c'est aussi des faits.
Oui, non, mais je veux dire les critiques logiques sur des faits. Mais c'est un effectif qui est pas immense, Marseille. Ils ont quand même, alors ils ont fait ratatiner en Coupe d'Europe, même si ils sont toujours capables de passer. Hein, faut
ça
pas l'oublier.
Rire,
hein,
parce que
sur le dernier match, s'ils battent Olympiakos suffisamment, ils peuvent toujours aller être basculés en Ligue Europa. Mais il n'empêche que eux, en dépit de tous les matchs qu'ils ont à jouer, la fatigue d'un effectif assez réduit, ils sont toujours et ça, c'est étonnant.
Ça montre quand même, je trouve, la faiblesse de la Ligue 1
au niveau européen. Ça, c'est encore un autre débat, ça.
Mais je suis d'accord avec toi, on a été peut-être parfois trop dur avec l'OM par rapport au niveau Ligue des Champions qu'on attend, alors qu'en Ligue 1, ils sont à leur place, ils sont sur le podium. Moi je suis pareil, je trouve que Monaco est peut-être l'équipe la plus joueuse et la plus intéressante
justement,
offensivement.
Justement, parce que quand ils avaient enlevé Roberto Martinez, hein, l'Espagnol, l'année dernière, qui avait plus ou moins pris...
Roberto Martinez, non.
C'était pas Roberto Martinez.
Non, c'était l'Espagnol Moreno.
Roberto Moreno.
La Belgique.
Il avait repris, oui, beaucoup d'Espagnol.
Ouais,
il avait repris cette équipe en fin de saison, et puis finalement, Niko Kovac arrive, du Bayern, où il avait quand même été viré. Hein. Et finalement, c'est peut-être une bonne surprise, Bruno Constant.
C'est une surprise parce qu'en même temps, c'est passé
parce
tellement
Jardim,
de choses à Monaco
depuis
le deuxième passage de Jardim.
Je sais pas,
il y a à peu près 80 joueurs qui ont dû passer à Monaco entre-temps.
Voilà, ça, les joueurs.
Donc il a fallu remettre de l'ordre dans cet effectif. Il a fallu dégager une équipe type ou une équipe en tout cas qui s'impose. Et puis même Kovac, il avait aussi beaucoup une carte à jouer parce qu'il sortait du Bayern d'un échec assez énorme. Alors que cette équipe-là a fini championne d'Europe, le Bayern, donc il avait une carte à jouer. Et je trouve qu'effectivement dans le jeu, c'est celle qui a le plus d'aisance et qui a un projet de jeu le plus intéressant. Après, c'est une équipe très joueuse et qui défensivement a quand même des largesses qui pourraient leur coûter cher. Mais comme on voit Lille avec l'Europa League, ils vont avoir quand même des soucis. Parce qu'on le voit, toutes les équipes qui jouent l'Europa League, ils ont du mal en championnat à enchaîner le match du week-end. Donc ça risque d'être compliqué pour eux, ils sont en bonne place dans leur groupe d'Europa League. Je pense que l'OM, a priori, sur le papier, même si c'est pas toujours très beau à voir jouer, ils sont quand même solides. Et puis Lyon, sur le papier, Lyon doit finir dans les trois premiers, donc...
Eh ben, ça sera intéressant cette.
Mais je suis d'accord avec Habib.
Les prochaines journées,
je pense
d'accord.
Que dans 10 journées, on en reparle et
on
est là pour ça.
Il faudra voir Lyon un petit peu s'ils arrivent.
Mais il faut
à enclencher.
Espérer que ce soit pas le cas.
Oui.
Il faut espérer que dans 10 journées, tout le monde soit là
aussi. Ouais. Parce qu'en début de saison, souvent, on dit bon, alors derrière le PSG, qui aura-t-il? Bon, là, au moins, ça pourrait tous les 2-3 ans comme ça, le PSG a une petite faute de concentration, on va dire.
Mais à Lyon, à noter quand même les performances de Toko Ekambi, Karl Toko Ekambi, qui sont Kadewere aussi. C'est
oui, et puis Moussa Dembélé aussi qui a marqué, ouais, qui revient et tout. Donc ça, l'équipe, en tout cas, a l'air de se rééquilibrer. Le PSG, justement, il est un peu, alors ou pas beaucoup, mais en tout cas, il a des poursuivants, on va dire. C'est à faute d'être menacé en Ligue 1, en Ligue des Champions, c'est pas terrible non plus, et ça risque d'être folklore, comme on peut dire des fois. Hein. Ça risque d'être intéressant mercredi soir à Manchester.
It comes away by the goalkeeper, and as far as Fernandez who hits it, there's the header, 2-2, it's Cavani, what an impact from the substitute, Rashford swings it, and Cavani, it's a classic Manchester United comeback. Cavani has turned the game completely on its head, and the away day Kings have produced a remarkable comeback here. Southampton 2, Manchester United 3.
Sur un petit air de folk, voilà Cavani, buteur du côté de Manchester, vainqueur au cours du week-end. Et les Parisiens, justement, vous parliez d'os tout à l'heure, Hervé Penaud, eh bien les Parisiens pourraient bien tomber sur un os, sur un buteur, surtout qui a pris ses marques et ses repères dans le stade de Manchester, où il vaudrait mieux d'ailleurs que les Parisiens, allez, disons, ne perdent pas, ça serait mieux de gagner, mais... Ce buteur, ils le connaissent donc bien, c'est Edinson Cavani, et il a reçu les éloges de son coach Ole Gunnar Solskjaer à l'issue du match.
C'est un joueur de très haut niveau et un homme d'une grande classe. Sa carrière parle pour lui. Il a marqué des buts partout où il est passé. Il est aussi très professionnel, très méticuleux dans sa préparation, dans la récupération. Il est concentré avant et pendant les matchs. Maintenant, avec lui, j'ai un point de fixation dans la surface de réparation. C'est important. Ça nous manquait depuis le départ de Romelu Lukaku. Avec Anthony Martial, Marcus Rashford, Mason Greenwood, nous avons des attaquants très différents. Ça nous offre un bon équilibre, une bonne complémentarité. Et Edinson, aujourd'hui, a été décisif.
Bruno Constant, Edinson Cavani a-t-il trouvé sa place d'abord au milieu de ces Red Devils?
Ah, mais en tout cas, il est en train de la faire, surtout. Parce que ça fait déjà plusieurs matchs, quand il joue, quand il rentre, il est efficace, il est influent. Et sur ce match-là, il rentre à 0-2 pour Southampton et le match finit à 3-2. Et il est impliqué sur les trois buts.
Ouais, une passe décisive,
un doublé et puis deux buts d'avant-centre avec des appels dans la surface, des réactions par rapport à un centre ou une frappe qui est détournée. Il a le geste juste. Et Solskjaer l'a dit, ils n'avaient pas eu un vrai neuf comme ça depuis un moment, et par ses déplacements, par son intelligence, son expérience, il est, voilà, c'est ce que recherchait United. Et il est même en train de menacer peut-être la place d'Anthony Martial à la pointe de l'attaque de United. Donc, il fait forte impression, en tout cas.
Habib, ses ex-parisiens, tant Thiago Silva, hein, qu'on voit à Chelsea en défense, et là, Cavani, c'est des bonnes pioches, finalement, pour la Première Ligue et pour leur club.
Ah oui, c'est sûr. Mais après, il pouvait y avoir un débat sur savoir pourquoi Paris Saint-Germain se séparait de joueurs qui avaient cette identité parisienne, qui était encore performant. Alors après, moi, je m'offusque pas des départs des uns ou des autres, parce que c'est la vie d'un club de foot, et il faut pas dire maintenant, parce qu'ils sont performants à Chelsea, on aurait dû les garder.
Et parce que c'est pas sportif, il y a des gros salaires. Pas, voilà.
Bien sûr,
je pense qu'à un moment donné, Leonardo avait la volonté de rajeunir cet effectif.
Okay. Oui. De le rénover.
Bien sûr qu'aujourd'hui, Abdou Diallo, c'est pas encore du niveau de Thiago Silva, mais encore une fois, ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire que tout le monde savait, quoi qu'il arrive, que Cavani serait performant dans un autre club. Mmh. Il l'a toujours été au Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui va jouer jusqu'à 50 ans et qui marquera des buts à 50 ans, même dans son jardin.
Il en
parce qu'il
aussi,
est fait
d'ailleurs.
Pour ça. Il en ratera aussi. mais ce qui est sûr, c'est que le scénario est fait pour faire peur aux Parisiens. Parce que mine de rien, vous allez jouer Manchester avec cette obligation de résultat. Et ce n'est pas une obligation de résultat, c'est carrément une obligation de victoire.
Mais oui.
Et vous voyez que juste avant, le mec que vous aviez l'année dernière vient de mettre un doublé. Donc vous avez un gars qui va arriver en confiance, qui est quand même dans un sentiment de revanche, vous pouvez me le dire,
bien sûr,
comme vous voulez, oui, il apprécie les supporters parisiens, mais son exit, ça lui a pas plu, donc il va se dire, si je peux
il est parti
être celui qui fait la différence, je vais pas m'en priver, Et je pense que si vous êtes le PSG, vous vous dites tout est fait pour que ça soit lui qui passe la différence.
Et en plus, c'est quand même l'histoire du PSG.
Alors, parce que les ex qui marquent des buts contre le PSG, c'est
justement
tout le cas.
Justement, Marie-Amélie Motte s'est amusée à chercher parce qu'on s'est dit il y a un truc quand même à chercher là. Depuis la création du PSG, donc le club qui a 50 ans, 73 buts ont été marqués contre le PSG par 45 anciens parisiens. Donc déjà, c'est un ratio assez intéressant. Mais évidemment, on va s'intéresser aux plus marquants, c'est-à-dire les plus récents. Yacine Adli durant le week-end avec Bordeaux, joueur formé par le PSG et qui donc a inscrit...
Passe de Ben Arfa.
Alors, Ben Arfa n'a pas marqué contre eux, mais c'est bien de le signaler parce que là aussi, il y a du ressentiment. Christopher Nkunku, alors lui, il joue avec Leipzig. Il a marqué contre le PSG. C'était en phase de poule en juillet 2019 et c'était... non, il a été vendu, pardon, en juillet 2019 et c'était en phase de poule, là, de Ligue des Champions. Kingsley Coman, on n'a pas oublié la finale, le seul but du Bayern Munich. Il est inscrit par Kingsley Coman. Bon, après on a un but
de
Cabaye.
Vous êtes en train de dire que cette année tous les anciens parisiens marquent contre le PSG.
Alors d'accord. c'est pas que
donc
cette
on
année.
On part déjà sur 1-0 pour Manchester.
2-0 peut-être, non. Mais c'est aussi effectivement Habib, et là je rejoins ce que vous êtes en train de dire avec Hervé, c'est qu'on a l'impression que les oracles sont un peu aussi
malédiction.
Malédiction contre le PSG.
J'en cite un autre, Loric Sana, qui jouait avec moi, qui avait été transféré du PSG à Marseille, et qui avait marqué de la tête
au
Vélodrome. Et
qu'on sait qu'il était un grand buteur.
Il avait gagné 1-0. Donc non, mais
et Modeste
oui,
Mbappé,
mais en même temps, il y a une motivation supplémentaire pour ces joueurs-là. Forcément, pour Kingsley Coman, lorsqu'il joue contre le PSG, il se dit c'est le club qui m'a formé. Bon bah il y a ce petit truc en plus qui fait que et puis on a l'impression que le destin est toujours lié dans ce sens-là.
Là, c'est énorme quand même parce que il y a une histoire parce que c'est encore pire que Coman et tout le reste pour moi hein, cette histoire Cavani. Cavani qui reste pas un mois de plus, qui veut pas prolonger, qui
il
veut pas faire
le
tournoi final parce qu'il est peut-être là, ils sont peut-être champions d'Europe hein, on n'en sait rien. Donc il le fait pas. Ce qui met en rogne, évidemment, les gens du Paris Saint-Germain, alors que Thiago Silva, lui, est resté. Et alors, ils étaient comme des fous. Après, rappelez-vous l'histoire du 40e, 50e, 70e anniversaire. 50e anniversaire.
Il n'est pas sur l'affiche.
Des meilleurs joueurs. Il y a une guéguerre entre l'un et l'autre. Je pense que là, il les attend, mais avec une envie, mais décuplé. Donc, c'est un truc... Là, vraiment, on a un combat de chef.
Je soupçonne même Ole Gunnar Solskjaer d'avoir préparé ce match retour uniquement pour Cavani, parce qu'il n'avait pas joué le match aller. Il n'était pas dans le groupe au match aller, il avait estimé qu'il était trop juste,
il voulait
le ménager, il a pris son temps d'ailleurs pour le faire entrer dans l'équipe de United. Mm-hmm. Et là, il arrive, il est en place. Je pense pas qu'il va débuter, mais par contre, il va rentrer, il va jouer, c'est sûr.
La presse anglaise en parle déjà là-bas, Bruno, de cette espèce de face-à-face comme ça.
Non, moins parce que ça les passionne un peu moins, et puis il s'est passé tellement de choses ce week-end qu'ils ont voilà, du grain à moudre avec Klopp, le coup de gueule de Klopp, et puis beaucoup d'autres choses, Arsenal qui est en plein déclin, etc. Mais évidemment, ils vont s'en souvenir parce que voilà, puis parce que c'est l'homme du moment à United. Il est là sur les trois derniers matchs, il a marqué 3 buts et une passe décisive. Donc c'est l'homme en forme presque de United. Donc forcément.
Et puis surtout dans l'approche du match, si on regarde bien, pour Solskjaer, c'est comme si c'était un match gestion aller-retour. Pourquoi ? Parce que il sait qu'il faut pas qu'il perde. Tant qu'il perd pas, c'est-à-dire s'il fait match nul, pour lui c'est bien. Ça reste un point intéressant puisqu'il garde Paris à distance en quelque sorte. Ce qui fait qu'il se dit, même si je suis mené dans ce match. Moi, j'égalise à la 89e, un peu l'image du match un petit peu qu'ils avaient vécu à l'époque quand ils avaient fait ce fameux retour là face au PSG. Il est un peu dans cette optique. Donc s'il est aujourd'hui avec ses joueurs en disant les gars, vous inquiétez pas, nous aujourd'hui, bien sûr qu'on veut gagner, mais le PSG de toute façon, même en gagnant 1-0, il y aura une forme de crainte d'être égalisé et du coup de faire un mauvais résultat. Et ça, dans la gestion et dans amener ses joueurs à une performance, il va l'intégrer. Rappelez-vous, quand il vient au Parc des Princes, il est juste dans l'idée de se dire, tant que mon équipe prend pas de but, je sais que le PSG va m'offrir des situations. Qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ce qui arrive. C'est-à-dire qu'on a un PSG qui attaque, un Manchester United qui défend, et on sent le scénario arriver, et le scénario arrive en faveur de Manchester United. Lui, il va être dans cette construction-là. Et Cavani, dans ces constructions-là, et l'élément parfait pour faire la différence.
Eh ben, ça sera très intéressant et on y reviendra dans nos prochaines émissions puisque le Paris Saint-Germain et Manchester va jouer à Manchester mercredi soir. On notera pour refermer cette émission les beaux hommages qui ont été rendus au cours du week-end à Diego Armando Maradona, un peu partout dans le monde. On en retiendra deux, celui de Boca Juniors, c'était la nuit dernière, où sa fille, Dalma, était seule dans la loge du papa à la Bombonera, le fameux stade de Boca. Et Boca l'a emporté par 2-0 sur Newell's Old Boys. Et puis à Naples, où les joueurs s'appelaient tous Maradona. Et là encore, eh bien, il semble que Maradona a poussé son ancien club à gagner, d'autant que ces derniers temps, Naples était un peu fâché avec la victoire. Et ça a fait du bien. On Serie A à ce Napoli. Enfin, chers auditeurs, dans Couleur Tropicale ce soir, vous n'entendrez pas parler de football, mais vous pourrez écouter deux footballeurs camerounais. Joseph-Antoine Bell et François Manbiik seront en ligne avec Claude Issiard et les auditeurs pour parler de leur fondation Noma Fund, ce fonds qui lutte contre cette maladie qu'est le Noma. C'est la fin de Radio Foot International. Merci beaucoup, messieurs.
Merci, Annie.
Un plaisir, comme tout le temps.
Et on vous dit à demain.
Chéri,